C'est l'heure d'accueillir Thomas Cluzel pour le journal de la rédaction. Bonjour Thomas.
Bonjour Nicolas.
Marseille, Strasbourg et Rouen pourront choisir de laisser circuler les véhicules les plus polluants au-delà du 1er janvier 2025.
Oui, ce qui signifie que les restrictions strictes ne concerneront désormais que Paris et Lyon. Alors pour se justifier, le gouvernement invoque l'amélioration de la qualité de l'air, mais il pourrait tout aussi bien, on le verra, désamorcer une probable bombe sociale. Au lendemain de la vaste opération Place Net lancée à Marseille contre le trafic de drogue, quel crédit accordé aux promesses des politiques? Ces opérations peuvent-elles avoir une réelle efficacité? Pour le savoir, on se rendra directement au cœur de la cité phocéenne et on posera par ailleurs la question à notre invité aujourd'hui, le sociologue Christian Mouhanna. L'actualité à l'étranger également, compte tenu de la situation catastrophique à Gaza, le Canada a décidé de cesser d'envoyer des armes vers Israël. On se demandera quel pays aujourd'hui continue d'exporter du matériel militaire à destination de l'État hébreu. Et puis on reviendra sur la libération cette nuit du journaliste congolais Stanis Boujakera de la prison centrale de Kinshasa où il était détenu depuis le mois de septembre. Les émissions de gaz à effet de serre ont reculé en France l'an dernier, moins 4,8%, soit une année record. S'est félicité ce matin le ministre de la Transition écologique, lequel y voit la preuve que les mesures engagées par le gouvernement commencent à produire des effets. Une bonne nouvelle donc, et qui vient en partie compenser l'annonce la veille par le même Christophe Béchu de la réduction comme peau de chagrin des zones à faible émission. Trois nouvelles agglomérations, Marseille, Strasbourg et Rouen, ont en effet été libérées de toute obligation de poursuivre le déploiement des interdictions des véhicules les plus polluants sur leur territoire, ou pour leur dire autrement, à l'exception de Paris et Lyon, désormais plus aucune ville en France ne sera tenue de renforcer les mesures restrictives là où la qualité de l'air est dégradée. Véronique Roberotte, bonjour.
Bonjour.
Rappelons pour commencer peut-être que ces fameuses ZFE, zones à faible émission, avaient été instaurées par une loi en 2019. 43 métropoles au total devaient être concernées. Et au final, Véronique, donc les restrictions de circulation strictes pour les véhicules polluants, classés critère 3 au 1er janvier 2025, ne concerneront que Paris et Lyon.
Effectivement, seules ces deux grandes villes sont désormais considérées comme des territoires ZFE effectifs. Lyon et Paris ont toujours l'obligation d'interdire au 1er janvier 2025 les véhicules critère 3, autrement dit les véhicules diesel de plus de 14 ans et les voitures essence de plus de 19 ans. Pourquoi d'autres grandes agglomérations ne sont plus tenues d'interdire ces véhicules sur leur territoire? Eh bien, c'est parce que Marseille, Strasbourg et Rouen sont passés en 2023 en dessous des seuils de pollution réglementaire. Nos efforts ont payé, réagissait ce matin chez nos confrères de France Inter, le maire de Rouen, Nicolas Meilleur-Rossignol.
On augmente l'offre de transport en commun, la gratuité des transports, ce qu'on a fait, y compris les jours évidemment de pic de pollution, ou les jours de forte affluence comme le samedi. On explose les vélos, on n'a jamais vu autant de vélos à Rouen, si vous venez à Rouen, et pourtant je peux vous dire que ce n'était pas historiquement notre culture. Le covoiturage, etc. Et tout ça ensemble donne des résultats qui nous permettent de, si j'ose dire, desserrer les taux. Mais c'est toujours une ligne de crête, et les efforts sont de toute façon pas terminés aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les interdictions précédentes continuent de s'appliquer. Mmh. Et d'autre part, il y a des évolutions, des normes pour améliorer encore, parce que la qualité de l'air s'est améliorée, mais elle est loin d'être parfaite.
Avec les critères, c'est au total 35% des véhicules de Rouen dont la circulation aurait été restreinte. Le maire de Rouen se dit effectivement soulagé par cette décision qui aurait fait, il le sait, quelques citoyens mécontents. Mécontente aussi l'association Respire. C'est une décision purement politique et malhonnête, dit-elle. Si elle reconnaît que la qualité de l'air effectivement s'est améliorée, c'est grâce surtout en 2023 à une météo favorable. Globalement, dit-elle, l'air reste pollué dans les villes et le sera de plus en plus, explique donc Respire, puisque la réglementation doit être prochainement durcie en Europe, les seuils de référence de pollution abaissés. S'ils étaient appliqués aujourd'hui, ces nouveaux seuils, Marseille, Rouen et Lyon n'auraient pas échappé à une interdiction des véhicules critère 3 dans leur territoire.
Merci Véronique Roberotte. Alors on a bien compris que pour justifier ces assouplissements, le gouvernement invoque l'amélioration de la qualité de l'air. Mais déjà, certains s'interrogent. Ne serait-ce pas aussi une manière opportune d'acheter la paix sociale? Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour.
Présentée à l'origine comme une dynamique irréversible lors de leur lancement, ces fameuses ZFE avaient fini par raviver au sein de l'exécutif le spectre d'une nouvelle crise des gilets jaunes.
Oui, parce que le dispositif, depuis ses débuts, fait débat politiquement et régulièrement, le gouvernement est alerté sur le risque de bombe sociale qu'il représenterait, comme ici en juin par le sénateur LR Philippe Tabarot, auteur du rapport sur la mission d'information des ZFE.
Êtes-vous prêt à réconcilier qualité de l'air et acceptabilité sociale? Si ce n'est pas le cas, Monsieur le Ministre, j'ai peur que les tensions sociales que les gouvernements ont connues avec la hausse du coût du carburant, les limitations à 80 km/h ou la taxe carbone ne soient que le hors-d'œuvre de ceux qui vous attendent demain.
Il est là ce spectre des gilets jaunes et même dans la majorité, un peu plus loin des micros, certains ont fait remonter l'incompréhension, voire la colère ressentie par endroits, des éléments qui ne sont pas étrangers à cet assouplissement désormais annoncé, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu.
Ces derniers mois ont quand même été marqués par une prise de conscience de la part de tout le monde que le mieux pouvait être l'ennemi du bien. Et qu'à mettre en place des critères qui étaient trop durs sans que les véhicules soient disponibles, sans que tout ça soit compris ou sans que ça se fasse avec un calendrier d'explication et de pédagogie, l'écologie n'y gagnerait pas grand-chose et l'économie y perdrait de manière certaine et la cohésion même de notre territoire serait aussi atteinte.
Le ministre défend l'objectif d'une politique publique ambitieuse pour protéger la santé et l'environnement, mais aussi respectueuse des besoins de mobilité de chacun, en même temps qui questionne même ceux qui ont plaidé pour cet assouplissement. Christophe Béchu sera interrogé cet après-midi au Sénat sur la cohérence de son action, lui qui a longtemps appuyé la pertinence de ces ZFE.
Merci Rosalie Lafarge.
Baptisé PlaceNet XXL, Emmanuel Macron a lancé hier à Marseille la première d'une dizaine d'opérations censées débarrasser la ville des réseaux et des trafiquants de drogue.
Au total, 82 personnes ont été interpellées, une soixantaine placées en garde à vue et 140 000 euros ont été saisis. Sera-ce suffisant pour stopper la guerre de territoire pour le contrôle des juteux points de stup qui ensanglante la cité phocéenne? Rien n'est moins sûr. Au lendemain du bain de foule du président Emmanuel Macron, cité de la Castellane à Marseille, le trafic a fait un bref retour ce matin. Mathilde Vinceneux, vous êtes sur place où les points de deal ont pu rouvrir pendant une heure en attendant le retour des CRS.
Les dealers avaient même prévenu les consommateurs dès hier soir sur la messagerie cryptée Telegram. Avis à toute la clientèle, nous sommes désolés de la situation embêtante. La police est restée très très longtemps, pouvait-on lire. Empêchés par la venue du président, les dealers invitaient les consommateurs à revenir aujourd'hui dès 10h. Et ce matin donc, les guetteurs étaient bien de retour, postés à toutes les entrées de la cité de la Castellane avec leurs capuches et leurs masques. Les barrages de caddies ou de carcasses de scooters étaient en place, les points de vente ouverts. Tout ça pendant une heure jusqu'à ce que les CRS arrivent. On a alors entendu les cris des guetteurs à rares résonner entre les tours et les vendeurs ont disparu avant même que les fourgonnettes n'aient eu le temps de se garer dans la cité. Un manège habituel, le jeu du chat et de la souris, mais une source policière l'assure. Les opérations policières seront bien quotidiennes à la Castellane. On y sera tous les jours pendant plusieurs semaines.
Merci Mathilde Vinceneux. Et pour continuer donc d'évoquer cette stratégie du gouvernement pour lutter contre le narcotrafic, invité de la rédaction à présent, Christian Moina, sociologue, chercheur au CNRS, membre du Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Peut-être et avant toute chose, pouvez-vous nous expliquer ce que recouvre exactement le terme d'opération PlaceNet et qu'est-ce qui distingue ces opérations des pratiques, disons, habituelles?
Ben, ce qui va distinguer ces opérations de ce qui se passe, je dirais, dans le quotidien pratiquement des policiers, c'est avant tout le nombre de policiers qui sont mobilisés et l'aspect un petit peu systématique. On va fouiller les caves, on va mener des opérations à plus grande échelle que d'habitude.
Est-ce que ces opérations, pour autant, sont efficaces dès lors que les personnes qui dirigent ces réseaux des trafics de drogue dans les quartiers ne sont pas physiquement présentes sur le terrain?
Ben, c'est toute la difficulté de l'exercice, c'est d'arriver à remonter les filières, à ne pas s'arrêter à interpeller les petits revendeurs quand on arrive à les attraper. Hein, votre reportage précédent parlait bien des guetteurs et de toute cette organisation qui fait qu'il est extrêmement difficile d'interpeller les gens. Mais quand on fait des grandes opérations comme celles auxquelles on assiste actuellement, on va toucher, le bas de la hiérarchie, le bas de la pyramide du trafic. On sait très bien que dorénavant, les trafiquants sont de mieux en mieux organisés. Ils ne touchent pas directement aux produits, ils ne touchent pas directement à l'argent. Il y a des circuits financiers assez complexes qui sont mis en place. Et donc, très souvent, si on veut démanteler efficacement de tels réseaux, c'est pas l'opération de rue visible qui va être efficace, mais plutôt des opérations de long terme avec des enquêtes financières, avec des enquêtes y compris fiscales. Et là, on arrive à coincer les gens, ceux qui sont en haut de la pyramide, en quelque sorte.
Oui, justement, est-ce que cette stratégie du pilonnage des points de deal, ainsi que l'a qualifié le gouvernement, ne se fait pas à l'encontre de ces enquêtes plus détaillées que vous évoquiez, dont le travail est évidemment moins visible, ou bien est-ce que ces deux volets sont complémentaires d'une même action ?
Alors, on peut rêver d'une complémentarité, mais ce qu'on voit souvent, c'est qu'effectivement, l'aspect, disons, médiatique, il faut faire quelque chose, il faut montrer à l'opinion qu'on fait quelque chose. Et le fait même que le président se déplace sur place montre que on est plus dans la démonstration de force que dans cette stratégie beaucoup plus discrète, beaucoup plus cachée, qui demande d'ailleurs beaucoup plus de temps. Là, on parle d'opérations, même si le pilonnage, comme on dit, devait marcher. Ça va durer 3-4 semaines et après les gens reviennent. D'ailleurs, votre reportage le disait très bien, dès que les policiers partent, le trafic va se remettre en place. Et d'autre part, on sait très bien qu'il y a de plus en plus de trafic qui circule, non pas à travers ces traditionnels échanges de rue comme on le voit encore, mais qu'il y a de plus en plus de livraisons qui sont faites via des commandes par les réseaux sociaux ou par le téléphone. On est dans quelque chose qui, commercialement, ressemble à toutes les livraisons qu'on peut voir dans d'autres domaines. Donc, on est dans quelque chose d'un peu dépassé, quoi.
Ça veut dire que ces opérations, vous le rappeliez, ô combien médiatiques et spectaculaires, n'ont d'autre but, au fond, que de manifester simplement la présence de l'État ?
Bien sûr. Enfin, il y a au moins cet effet-là, et ce qui est pas forcément négligeable, parce qu'on sait que dans ces quartiers-là, il y a besoin d'État, mais il y a peut-être pas besoin uniquement de d'opérations policières. D'ailleurs, ça, c'est un peu l'autre versant du problème. Si même on avait des opérations policières qui fonctionnaient bien, qu'on arrivait à casser le trafic, ce qu'on sait très bien, s'il n'y a pas derrière des opérations économiques, scolaires, tout un investissement de l'État dans le fonctionnement humain, très vite, les gens retournent dans tous ces trafics de stupéfiants ou d'autres choses.
Aujourd'hui, des magistrats réclament un plan Marshall avec des mesures fortes, comme par exemple un régime carcéral spécifique pour les trafiquants ou bien une collaboration facilitée avec les repentis. Est-ce que cela peut faire partie de la solution ?
Alors, là encore, ça peut faire partie de la solution. Ça sera une partie de la solution qui est la partie répressive, qui ne suffit pas. Et si on parle des prisons, on a déjà des prisons totalement surpeuplées, des plans de construction de nouvelles prisons qui sont, on parle de programme 15 000 et autres, qui sont extrêmement longs à se développer, et surtout qui coûtent extrêmement cher. Enfin, il faudra discuter un jour du prix de la prison. On est à plusieurs centaines de milliers d'euros pour une place de prison, donc on peut pas non plus remplir à fond les prisons. Et puis d'autre part, on s'aperçoit que, contrairement à ce qu'on croit, les prisons ne sont pas totalement imperméables et que, au contraire, il y a des trafiquants qui continuent à gérer leur trafic depuis la prison, et que même à l'intérieur de la prison, il y a beaucoup de trafic de stupéfiants, parce qu'on sait aussi que c'est un moyen d'acheter la paix à l'intérieur de la prison.
C'est bien compris. Merci Christian Moana, sociologue et membre, je le rappelle, du Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Loïs Guérin pour la préparation.
Vous écoutez France Culture, il est 12h43 et c'est la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
De retour d'une visite en Asie, Anthony Blinken est attendu au Moyen-Orient pour une énième tournée régionale qui le mènera aujourd'hui en Arabie Saoudite et demain en Égypte. Le secrétaire d'État américain garde encore l'espoir d'arracher une trêve de plusieurs semaines dans la bande de Gaza, où la population fait face désormais à une crise apocalyptique après plus de 5 mois de guerre et presque autant de semaines durant lesquelles les avertissements de la communauté internationale lancés contre le risque d'une calamité humanitaire sont restés plus que jamais lettre morte. Alors c'est précisément dans ce contexte qu'hier, le gouvernement du Canada, tout en affirmant le droit d'Israël à se défendre, a annoncé qu'il allait cesser ses exportations de matériel militaire, essentiellement d'ailleurs des outils de communication. Étienne Monin, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que c'est là, tout d'abord, Étienne, une première? Et puis, qui continue aujourd'hui de livrer des équipements à l'État hébreu pour mener cette guerre de représailles?
Eh bien, de loin, c'est le principal partenaire, ce sont les États-Unis. Ils représentent plus de 90% des livraisons d'armes devant l'Allemagne, l'Italie et le Canada, d'après les chiffres de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Le soutien militaire américain pèse pour 3,5 milliards d'euros chaque année. C'est un accord cadre. Israël se fournit en avions de chasse, SS dernière génération et notamment en missiles antiaériens indispensables aujourd'hui pour stabiliser le front nord avec le Hezbollah. Malgré les tensions avec le Premier ministre israélien, le président Biden a renouvelé ce soutien militaire la semaine dernière, notamment pour le Dôme de Fer. La décision du gouvernement canadien est donc essentiellement forte sur le plan diplomatique. C'est le premier gouvernement à décider de stopper ses livraisons d'armes pour marquer son désaccord avec la stratégie militaire d'Israël qui pousse Gaza au bord de la famine. Le mois dernier, les Pays-Bas avaient stoppé la livraison de pièces détachées, mais c'était sous la contrainte d'une décision de la Cour d'appel saisie par les organisations des droits de l'homme. Le mois dernier, Amnesty International a écrit une lettre ouverte au président français Emmanuel Macron pour demander l'arrêt des livraisons d'armes françaises. Les ONG estiment que le risque de génocide à Gaza oblige les États à cesser toutes les exportations d'armes qui pourraient être employées contre les populations civiles. En 2022, Paris a vendu pour plus de 25 millions de matériel à Israël, plus 9 millions dans la catégorie des munitions lourdes. Mais le ministère des Affaires étrangères affirme que ces exportations ne sont pas susceptibles d'être employées contre des civils à Gaza, où le bilan atteint aujourd'hui presque les presque 32 000 morts.
Merci Étienne Monin. La Russie juge discriminatoire les décisions du Comité international olympique. Les sportifs russes et bélarusses admis sous une bannière neutre aux JO de Paris ne seront pas autorisés à parader sur la scène lors de la cérémonie d'ouverture. Une nouvelle restriction imposée bien sûr par la guerre d'invasion lancée par l'armée du Kremlin contre l'Ukraine.
Jusqu'à quand Hong Kong conservera-t-elle son statut de métropole cosmopolite et de centre de la finance internationale ?
Hier, les parlementaires de la région prétendument autonome ont approuvé sur ordre de Pékin une loi sur la sécurité ouvrant une nouvelle ère sous le signe de l'autoritarisme et destinée à étouffer davantage encore toute forme d'opposition. Lui a été condamné lundi dernier à 6 mois de prison pour avoir incriminé les renseignements militaires de son pays dans la mort d'un ancien ministre et député d'opposition. Lui, c'est Stanis Boujakera, journaliste congolais, correspondant notamment du magazine Jeune Afrique et de l'agence de presse Reuters, reconnu coupable de toutes les infractions portées contre lui, contrefaçon, faux en écriture, propagation de faux bruits. Les autorités judiciaires ont estimé qu'il avait l'intention de jeter le discrédit sur les institutions. Mathieu Laurent, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors, ayant en réalité déjà effectué sa peine au titre de la détention préventive, Stanis Boujakera a finalement été libéré dans la nuit de la prison centrale de Kinshasa. Non, sans que d'ultime lenteur, Mathieu, vienne brouiller jusqu'au bout ce long feuilleton judiciaire.
Oui, il faut d'abord souligner l'écart vertigineux entre les réquisitions, 20 ans de prison, et la condamnation, 6 mois d'emprisonnement. Ensuite, évoquer la volte-face de la justice. La libération de Stanis Boujakera est actée, le document ad hoc est signé, le procureur fait alors appel de son verdict. La suite, c'est Vincent Duhaime, responsable des investigations à Jeune Afrique, qui nous la livre.
2 heures plus tard, il est sorti, il est libéré. On sait simplement que il y a eu un ordre qui a été donné au ministère public de retirer son appel au directeur de la prison de le libérer.
Et de le libérer à un horaire auquel on ne libère personne.
À un horaire, oui, il est libéré à 22h alors que normalement les détenus ont interdiction d'être libérés après 19h. Donc là, il y a clairement eu un ordre qui est venu de tout en haut. Est-ce que c'est le président lui-même ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un ordre qui a été donné de faire une exception.
Le président n'a d'ailleurs pas fait l'économie de commentaires sur cette affaire. Stanis Boujakera est peut-être victime des tergiversations de la justice, déclarait-il le 22 février dernier, tout en se disant prêt, je cite, à mettre son nez dans ce dossier. Félix Tshisekedi, plus soucieux de son image à l'extérieur, qu'embarrassé pro domo, Vincent Duhaime.
Au Congo, ça n'a pas eu un impact énorme sur lui, mais par contre, oui, dans ses relations avec les bailleurs, il se prépare à effectuer une visite officielle en France fin avril. Je pense que c'était important que Stanis soit libéré avant ça.
Stanis Boujakera, qui envisage de faire appel pour laver son honneur.
Merci Mathieu Laurent. Déjà condamné à 8 ans d'inéligibilité pour ses attaques contre la démocratie, Jair Bolsonaro va-t-il aussi devoir en passer par la case prison ? Hier, la police brésilienne a recommandé l'inculpation de l'ex-président pour falsification de certificat de vaccination contre le Covid-19. Le leader d'extrême droite aurait fait réaliser ses faux 2 jours avant la fin de son mandat pour pouvoir rejoindre les États-Unis où la vaccination était alors requise et ainsi se mettre à l'abri avant un éventuel soulèvement populaire pour renverser son successeur. Lula, si ces faits étaient vérifiés, Jair Bolsonaro serait passible de 12 années de prison. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, avec du soleil sur la majeure partie du territoire, à l'exception d'un voile nuageux qui s'étendra tout le long de la façade atlantique de la Bretagne jusqu'à l'ouest des Pyrénées. Quant aux températures particulièrement douces, elles seront comprises entre 17 et 25 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.